Question d'Islande par Anne Bensheer. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet classique, mais il est inépuisable, c'est la relation entre la foi et la raison, d'une manière générale dans les contextes religieux et tout particulièrement en contexte islamique. On parlera aussi de la philosophie et du droit dans ces contextes islamiques au pluriel. Et j'ai plaisir à accueillir pour ce sujet le professeur André Poupart. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes juriste de formation, professeur de droit vous-même. Vous avez enseigné longtemps à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et je suis extrêmement heureux de saisir l'occasion de votre passage à Paris pour avoir votre avis édifiant sur ces questions de la relation multiséculaire entre la foi, la raison, la philosophie, le droit. Et vous avez pris comme exemple dans votre dernier ouvrage la figure d'Averroès. Nous lui avons consacré quelques émissions. Nous débordons le cadre uniquement du XIIe siècle en Andalousie et au Maghreb. Mais nous essayons de comprendre ces problématiques à l'aune de ce qui se passe aussi maintenant. Et selon vous, comment faire pour sortir de l'ornière? Parce qu'il y a une véritable crise aussi de la pensée en contexte islamique. Comment êtes-vous, cher professeur André Poupart, été amené à vous intéresser à ces questions alors que vous me disiez que vous n'êtes ni arabe ni musulman? Mais cela vous intéresse.
Voilà, au moment où j'ai pris ma retraite de la faculté de droit de l'Université de Montréal, je voulais tout de même, puisque j'étais quand même à un jeune âge, continuer en droit. Et le droit musulman me semblait, à ce moment-là, présenter à la fois le plus d'intérêt, peut-être parce qu'il offrait le plus de difficultés. Et donc, je me suis plongé progressivement. J'étais professeur de droit fiscal. Rien me destinait à faire du droit musulman ou à m'intéresser au droit musulman. Mais j'ai voulu essayer de comprendre.
Ceux qui disent que, quand même, ce droit dit islamique est une des grandes familles juridiques de l'humanité, avec la common law, le droit du côté de la Chine ou sino-indien, le droit islamique, comme ça, dans son sens le plus neutre. Vous souscrivez à cette idée où il y a une spécificité propre au droit islamique parce qu'il est de référence et d'inspiration religieuse?
Je pense qu'il a effectivement une spécificité. C'est un droit qui nous est donné. C'est un droit qui vient d'en haut, un droit qui se présente comme un modèle à suivre de toute éternité, parce que c'est la parole de Dieu. Alors que la conception soit de common law, soit de droit civil, est une conception de droit élaborée progressivement par les citoyens. Donc, notre conception du droit, la conception occidentale, est plutôt d'adapter le droit à la situation des personnes, à la situation des citoyens. Alors qu'en droit musulman, on vise plutôt, me semble-t-il, à rendre la conduite des musulmans conforme à l'idéal qui a été énoncé il y a déjà plusieurs siècles.
Oui. Simplement, ce qui est venu d'en haut ne parle pas de bioéthique, de droit maritime, d'arsenalisation de l'espace, des arsenaux nucléaires eux-mêmes, ni d'Internet. Donc là aussi, de fait, il doit y avoir une construction humaine dans la production du droit.
Oui, effectivement, le droit, même musulman d'origine divine, est une construction humaine. Mais les domaines dont vous parlez ont été, sont sortis de ce qu'on appelle traditionnellement le droit musulman. Si on prend l'exemple d'un seul pays, prenons le Maroc, il y a le droit qu'on peut qualifier de musulman, la moudawana, le droit de la famille, mais le droit des sociétés, le droit du transport, c'est du droit marocain qui peut être inspiré par un vieux fond civilisationnel musulman. Mais c'est du droit positif marocain et non du droit musulman.
C'est l'œuvre de la sécularisation.
Voilà.
Pour revenir, monsieur le professeur, à la notion du droit proprement religieux, le simple fait d'avoir quatre écoles montre que on n'a pas une vision uniforme, monolithique et univoque. Ces quatre écoles, qui auraient pu être trois, comme elles auraient pu être cinq, ce n'est pas garanti par le divin, le fait d'avoir quatre écoles. Cela montre la construction humaine aussi dans son interprétation.
Tout à fait. Et donc, les musulmans eux-mêmes, inspirés par un message unique, se sont divisés sur l'interprétation à donner à ce message. Est-ce qu'on peut parler d'interprétation? C'est un terme qui...
Ou du moins, comment l'adapter, comment le vivre, comment l'incarner dans la réalité de tous les jours. Entre 767, mort du premier maître éponyme, Abu Hanifa, et 855, le dernier, Ahmed ibn Hanbal, il y a eu déjà l'élaboration du corpus juridique, donc ce n'était pas encore stable.
Non, et effectivement, l'élaboration du droit dépend du contexte social, du contexte à la limite ethnique. L'Empire musulman, à ses différentes étapes, était... je dirais, de plus en plus diversifié. Sous les Abbassides, les populations étaient vraiment de diverses origines, beaucoup d'influences persanes. Et le droit a été modelé par ces différentes influences qui ont correspondu à différentes perceptions du droit, différents besoins selon les sociétés, selon les origines des gens qui ont élaboré ces doctrines.
Quel sens alors y a-t-il à parler de nos jours, nous qui sommes au XXIe siècle, de la charia, enfin, la loi de Dieu, qui serait une et indivisible et indépassable?
Une indivisible et indépassable, mais dans une certaine diversité, et cette diversité quand même inspirée par un message unique. Et c'est la grandeur du droit, je voudrais dire, de s'adapter aux besoins des différentes sociétés qui sont soumises à ces règles de droit. Et aux différentes époques, le contexte politique varie énormément entre l'Empire qui se forme et s'organise et, à la fin, les invasions, les dissensions, plus tard l'arrivée des Mongols, tout ça fait en sorte que les pressions sont énormes de part et d'autre, et donc se constituent différentes perceptions. Mais en autant que je sache, les divisions ne sont pas à ce point importantes entre les différentes écoles. C'est plus une perception de méthode que de résultats.
Oui, alors il y en a ceux qui sont pour l'analogie, d'autres qui sont pour l'opinion, d'autres qui sont pour privilégier plutôt la coutume des gens de Médine, etc. J'ai pour habitude de poser cette question et votre réponse éclairera beaucoup nos auditeurs. Et alors, comment peut-on qualifier ce qui prévalait avant 767, donc je prends le premier Abu Hanifa, de ce qui se passait sous la dynastie Omeyyade, la dynastie omeyyade, c'est 661-750. Donc les califes omeyyades ont gouverné, sinon d'une manière anti-islamique, au regard des thèses des islamistes de nos jours, au moins d'une manière anislamique, puisque la charia n'était pas encore bien élaborée.
Voilà. C'est une question très intéressante, parce que à cette époque, l'islam, la charia, le droit musulman, était en formation.
Oui.
Donc, l'un et l'autre n'existaient pas vraiment encore comme éléments constitués. Donc, c'est peut-être la période la plus dynamique, la plus, comment dire, la plus ouverte de l'islam et de l'Empire avant que ce droit se sclérose d'une certaine façon. Et donc, aujourd'hui, quand on veut revenir à l'islam de l'origine, l'intérêt est moins de revenir à la camis et à la barbe que de revenir à l'énergie qu'a permis de développer ces premières années de l'islam en formation.
Oui.
Qu'est-ce qui a permis de développer cet empire? Un empire qui a eu besoin d'un système juridique pour se constituer, pour s'administrer, qui était ouvert sur l'expérience des Sassanides, sur l'expérience de l'Empire byzantin, qui a intégré tout ça pour former sa propre dynamique, son propre empire.
Le khamis étant cette chemise longue, je le dis simplement pour les auditeurs, et en plus ça n'existait même pas à l'époque puisqu'on n'avait pas ce genre d'habit, et il n'y a pas d'habit dit islamique, il faudrait peut-être le savoir. Et donc le dynamisme était, avec l'expansion de l'Empire, c'est de voir ce qui se faisait chez les Byzantins, chez les Sassanides, et d'emprunter et d'avoir leur influence pour la production même du droit.
Exactement. Il faut voir que les Arabes, devenus musulmans plus tard, sont partis du désert. Ils n'avaient pas de... C'est des gens qui connaissaient mieux la razzia que la gestion d'un empire. Donc, il fallait, après toute leur conquête, développer une science de la gestion d'un empire, développer un droit qui n'existait pas, créer de nouvelles structures. Et la meilleure façon, et la plus rapide, la plus simple, était d'emprunter aux vaincus, finalement. L'Empire sassanide et l'Empire byzantin qui s'étaient mutuellement épuisés et qui ont permis aux...
Il y aurait eu dans l'histoire deux cas similaires, pas nécessairement au niveau du droit, mais des éléments constitutifs de la civilisation. Rome, après avoir investi Athènes, et les Mongols, une fois ayant pris Bagdad le 10 février 1258, ils seraient repartis par la suite musulmans. Et donc les Arabes eux-mêmes, étant minoritaires dans ce vaste empire en constitution, pour pouvoir l'administrer, ils n'avaient pas trouvé mieux que d'emprunter ce qui se prévalait chez les Sassanides, parce qu'ils les admiraient,
voilà.
Et aussi chez les Byzantins.
Oui. Mais la réaction ou la relation a été plus facile avec les Perses, les Sassanides, qui sont disparus à ce moment-là sous l'influence des armées arabo-musulmanes, alors que les Byzantins, eux, ont résisté. Et paradoxalement, l'influence grecque n'est pas venue des Byzantins.
Elle est venue via la Perse.
Elle est venue via la Perse. Et c'est quand même paradoxal. Les Byzantins, qui étaient des chrétiens ou des catholiques fervents, disons, ont résisté davantage et n'étaient pas prêts à collaborer avec ces nouveaux ces nouveaux arrivants, ces nouvelles forces dynamiques, alors que les Sassanides, eux, ont nécessairement collaboré, ils étaient totalement défaits.
Oui, après les deux batailles, celle de Qadisiyah et celle de Nahavand. Et vous dites, non sans raison, pardonnez-moi d'apparaître comme celui qui cautionne votre travail et cette outrecuidance, que la maison de la sagesse de Bagdad est une forme de copie ou une sorte de copie de l'académie de Gundishapur.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a des similitudes, y compris dans ce qui s'y passait, la partie réservée pour la traduction, la partie réservée pour les études, la partie réservée aussi pour les débats et controverses. Et donc ça se passait comme ça aussi à l'académie de Gundishapur ou Gundishapur, comme on dit.
Ce qui est formidable, c'est qu'à cette époque, disons, la maison de la sagesse pouvait correspondre à nos grandes universités d'aujourd'hui. Donc, les empires arabo-musulmans étaient au centre, non seulement de la force militaire, mais également de la culture. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, dans les classements mondiaux des universités, aux premières loges, on trouve très peu d'universités, disons, du Moyen-Orient ou du Maghreb.
Du Maghreb, on n'en trouve pas. Du Moyen-Orient, on trouve dans des classements un peu éculés ou reculés sur les 500 dans le classement de Shanghai. Alors que la Maison de la Sagesse, si j'emprunte votre appellation, elle est de 827, hein, en gros, sous le calife Al-Mamoun, 813-833, était le modèle de, à la fois de l'académie et de l'université.
Voilà. C'était le Harvard ou le Oxford de l'époque.
Alors, je ne vais pas encore évoquer Al-Qarawiyyin de Fès ou la Zaytouna ou plus tard, un peu plus tard, Al-Azhab, au Caire. Mais pour revenir à cette élaboration du droit, il faut qu'il y ait une approche plutôt rationnelle, comme une sorte d'émanation rationnelle, de s'inspirer certes du livre sacré et de l'adapter dans ses dispositions législatives, qui sont très peu par rapport à l'ensemble du corpus.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette prolifération d'écoles. Donc l'élément rationnel était important.
Oui, l'élément rationnel est important, mais il est subalterne par rapport à la foi. Il faut croire dans la parole qui vient, comme je disais tout à l'heure, d'en haut, qui nous est donnée et qu'on essaie d'appliquer. Mais même dans les versets les plus précis, il faut voir que Dieu, à ce moment-là, parlait pour être compris. Souvent, dans le Coran, on dit « il faut comprendre ». Donc, il parlait à un peuple du désert, à des bédouins, pour être compris.
Et donc, il faut frapper leur imaginaire et leur entendement.
Voilà. Mais aujourd'hui, il faut imaginer comment Dieu nous parlerait s'il intervenait aujourd'hui. Et donc, même pour les dispositions... Souvent, on dit il faut interpréter les dispositions ambiguës. Moi, je dirais plutôt il faut interpréter les dispositions les plus explicites parce qu'elles ont été émises ou exprimées pour être comprises par un peuple qui avait une expérience historique très particulière.
La révélation s'articule dans l'histoire et est portée par des cultures.
Voilà. Thank you.
Alors, nous sommes sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec le professeur André Poupart, juriste et professeur honoraire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Nous parlons aujourd'hui de foi et raison, de philosophie et de droit, forcément, et de production du droit. Et dans cette deuxième partie, si vous voulez bien, monsieur le professeur, nous aborderons la question de la foi et de la raison. Vous dites qu'il faut croire, donc c'est plutôt la raison qui est soumise au croire, à la foi. Et c'était aussi le cas chez les Mu'tazilites, cette école des premiers rationalistes.
Les Mu'tazilites étaient les dissidents de l'époque. Et pour eux, la raison devait primer. Et donc, leur prééminence a duré très peu de temps, environ 25 ou 30 ans, et on est revenu ensuite à l'orthodoxie. Mais dans cette orthodoxie, justement, c'est la foi qui domine. Même si cette foi doit utiliser la raison pour la compréhension du message. Et à l'inverse, Averroès nous dit, comme les Mu'tazilites, la raison doit avoir priorité. En cas de conflit, comment résoudre ces deux vérités? C'est impossible qu'il y ait deux vérités sur un même sujet. La position d'Averroès, c'est de dire, oui, mais c'est la raison qui doit dominer. S'il y a deux vérités, c'est qu'on a mal interprété la parole. Et donc, la raison doit faire un effort, c'est tout l'effort de l'ijtihad, essayer de découvrir la vérité. C'est une recherche permanente. Et c'est là le conflit véritable, je pense, avec l'islam orthodoxe, une recherche qui nécessairement crée le doute.
Oui, et de ce doute, il va y avoir un retour à une foi un peu plus assainie de ses scories. Mais c'est un travail permanent.
Oui, c'est un travail permanent et c'est un travail qui ne reçoit pas facilement l'approbation des autorités politiques. Le doute joue à la fois un rôle en matière religieuse et aussi en matière politique. Si le calife, d'une certaine façon, est le successeur du prophète, il y a nécessairement une collusion entre le religieux et le politique. Il y a un appui réciproque de l'un et de l'autre pour devenir plus fort, pour contrôler le pouvoir. Et donc le doute est l'ennemi principal à la fois des religieux et à la fois des politiques.
Oui, je vois pour la partie politique. Et pourtant, le calife en principe, ou les califes, hormis ceux qui se présentent comme l'ombre de Dieu sur terre, disent qu'ils ne sont là que pour la partie plutôt temporelle de l'exercice de l'autorité prophétique, puisque le prophète, pour la partie spirituelle, la prophétie s'est arrêtée avec sa mort. Mais le fait de gérer les affaires de la communauté, et s'il faut un successeur, ben le calife est là pour perpétuer cette partie-là. Oui. Même pour ça, il avait besoin de l'adhésion de des administrés.
Oui, et ça lui donne une autorité plus grande. À la limite, pour le pouvoir civil, peut ne reposer que sur le sabre. Alors que si vous disposez à la fois du sabre et du goupillon, je ne sais pas comment on dit dans le contexte, vous êtes beaucoup plus assuré. C'est plus difficile de contester le représentant du prophète que de contester un simple élu ou une simple personne qui s'est imposée par le sabre.
Oui, auquel cas il faudrait le sabre aussi pour le déloger. Encore quand il y a une intériorisation et une allégeance sur le plan religieux, ça devient plus difficile. Vous avez évoqué cette parole d'Averroès dans son traité décisif de 1180, lorsque la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Mais c'était pas nouveau avec lui. Il y avait déjà Al-Farabi, oui. L'Al-Farabius des Latins, mort en 950, qui disait la même chose en cas de conflit entre la foi et la raison. Ben, le primat est plutôt à la raison.
Voilà. Oui, c'est un grand conflit qui perdure dans le monde arabo-musulman. L'héritage grec a été difficile à digérer dans l'espace arabo-musulman. Donc, il y a toujours un conflit latent entre la raison et la foi. Et selon les époques, l'un prend l'ascendant et l'autre, mais les philosophes n'ont jamais gagné. Il y a toujours eu des résurgences philosophiques, Al-Farabi, ensuite Averroès, mais à des siècles de distance, et aujourd'hui, c'est comme on a parlé des Moutazilites tout à l'heure, et donc aujourd'hui, on essaie de valoriser ces penseurs, mais finalement, leur expérience a été un échec.
Si on se rend compte que leur expérience est un échec et qu'on est convaincu de la justesse de leur vision du monde, de la société, l'idée pour sortir de l'ornière et de la crise actuelle, c'est peut-être de réactualiser leur audace intellectuelle et leur hardiesse de la pensée, de la conjuguer avec d'autres apports et laisser place à la raison, et à la raison peut-être pas résonante mais pure en tout cas, et pas la raison religieuse dévote.
Oui. Je pense qu'il faut, à la base, considérer le musulman comme un citoyen. Et un citoyen qui est libre d'organiser sa vie en tant que musulman sur la base de la raison. Et donc, dans ce contexte, c'est toujours la raison qui va primer. Et il faut réaliser que la recherche de la vérité sur la base de la raison va toujours être conflictuelle. Il y a toujours un doute. Et on n'atteint jamais la vérité avec un grand V, alors que Ghazali et ceux qui l'ont suivi, ou ceux qui l'ont précédé, disaient il n'y a qu'une seule vérité avec un grand V, et il faut adhérer à cette vérité. On la comprend, on l'accepte par le cœur. Et on voit ce que ça a donné comme résultat. Peut-être qu'il faudrait mieux se fier à la raison, à ses faiblesses, à sa grandeur, et admettre qu'il y aura des hauts, des bas, des périodes de doute, et des périodes de doute qui permettent d'assumer plus pleinement les vérités qui sont découvertes et de les assumer avec une meilleure compréhension et plus de conviction et moins de simple adhésion à une pratique qui se fait de façon quotidienne.
Alors, il y a deux aspects dans ce que vous dites. En ce qui concerne la contemporanéité, il faut considérer le musulman comme un citoyen, un sujet de droit autonome et pas soumis à la pression communautaire, et le laisser avec sa propre réflexion et sa raison, quitte à l'aider en cela, et ne pas le laisser dans son dogmatisme, et seules les certitudes rendent fou. Et puis, dans le temps, c'est peut-être le tournant d'Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, 1058-1111, qui a voulu pourfendre les thèses de ses prédécesseurs philosophes, donc notamment Al-Farabi et Avicenne. Et donc vous pensez que et notamment dans son ouvrage « L'incohérence des philosophes », il y a là une sorte de défaite de la pensée philosophique en contexte islamique, à laquelle Averroès voudra plutôt rendre justice, mais ce n'était pas suffisant.
Oui, c'est une défaite de la pensée. Et c'est une défaite de la pensée dans le sens où Al-Ghazali nous propose d'imiter, de nous conformer à un message. Et on peut imaginer qu'après des siècles d'imitation, de volonté de se conformer à une parole, la société devient moins créative. J'ai dans mon livre une citation que j'aime bien. Ce n'est pas une citation, c'est une réflexion qui parle des enseignements de François Julien sur la philosophie grecque au départ. Le développement de l'être, la notion d'être. Il y a le moi, il y a le toi, il y a l'autre qui sont en conflit, qui sont en opposition, qui sont en complémentarité. Et donc, il explique le développement de l'Occident dans ce contexte. En chinois, semble-t-il, il n'y a pas de verbe être. Comment expliquer le développement de la Chine auquel on assiste aujourd'hui? En l'absence de verbe être, lequel verbe être a fait le succès de l'Occident?
Peut-être, en arabe, il n'y a pas le verbe être aussi.
J'y viens. Mais la Chine réussit à se développer sans doute par la recherche de l'équilibre. La société chinoise est en constante recherche de l'équilibre, de l'harmonie entre le yin et le yang, et donc en perpétuel mouvement. Dans l'arabe, il n'y a pas de verbe être. Qu'est-ce qui empêche le monde arabe, arabo-musulman, de se développer comme la Chine le fait? Peut-être cette idée permanente d'imitation. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'ouverture vers autre chose, il n'y a pas de doute. Donc la parole est reçue, elle est reçue parfaite, il faut se conformer. Et une société ne peut pas se développer en même temps qu'elle se conforme. Le développement implique du changement, de l'adaptation, de plus que de la conformité.
Ça implique une dynamique, voilà. et puis quelque chose d'ouvert, le fait de se conformer. L'imitation servile, comme disent certains, et considérer d'autres apports, d'autres réflexions comme des sciences intruses ou étrangères au corps de doctrine une bonne fois établie, est asphyxiant. Alors là, j'aurais deux questions. Donc, comment expliquez-vous l'apogée, il y a eu un apogée civilisationnel islamique, même après le triomphe d'Al-Ghazali, par-delà la réaction averroïste? Est-ce qu'il y a eu, en dépit même de l'absence du verbe être, puisque la langue arabe fut la langue véhiculaire, ou est-ce que ce n'était qu'un apogée civilisationnel sur des aspects, nous aurions pu dire aujourd'hui, techniques ou technologiques et plutôt scientifiques, mais pas dans les idées et pas dans les considérations théologico-philosophiques?
L'apogée intellectuel du monde arabo-musulman a été le fruit des interventions des arabo-musulmans eux-mêmes, mais influencés par des civilisations extérieures, influencés par la Perse, qui est une très vieille civilisation, influencés à l'époque par les gens qui venaient du Khorasan ou plus loin.
Et donc, la transoxiane.
Oui. Donc, l'immigration est un enrichissement. Autant sur le plan matériel que sur le plan intellectuel. Et c'est ce qui a fait la richesse à cette époque de l'islam. c'est l'appropriation, le travail islamique sur une pensée venue de l'extérieur et une recherche de quoi ? Une recherche pour créer un État, un empire qui a conquis le monde de l'époque. Et donc, aujourd'hui, on est loin de tout ça. Et pour ça, il faut des bibliothèques, il faut de l'ouverture, il faut des traductions de livres, et il faut arroser la plante dont on détient déjà la sagesse, mais l'arroser avec des apports extérieurs qui finalement l'enrichissent et lui permettent de se développer dans le nouveau contexte d'aujourd'hui.
Alors, on consacrera la dernière partie de l'émission au contexte d'aujourd'hui. Si vous voulez bien, monsieur le professeur, revenir aux éléments du débat, nos amis auditeurs le savent déjà, mais entre Al-Ghazali, Al-Ghazal et Averroès, qu'est-ce qui les a opposés? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui a poussé Al-Ghazali? Pourtant, il était au fait de sa gloire quand il était titulaire de la chaire de théologie à Nizamiya, fondée par Nizam el-Mulk, le vizir sous la dynastie Seljoukide. Et finalement, qu'est-ce qui l'a poussé? C'était une crise mystique et puis ce plaidoyer pour la piété et la foi, l'imitation dont vous avez parlé, le fait de se conformer. Il y a eu le sursaut averroïste un peu plus tard et on en était resté là ou il y a encore d'autres éléments?
Pour expliquer dans un premier temps la position de Ghazali, il faut voir que la société à ce moment-là où l'Empire était soumis à des pressions très fortes. On n'est pas loin des croisades. On n'est pas loin, il y a déjà des forces, des hordes qui viennent de l'Est et qui menacent l'Empire. Donc, son but est à la fois d'affirmer l'unité de la religion, mais aussi l'unité de l'Empire. Et donc, il y a à la fois une volonté religieuse et politique d'affirmer l'importance de l'Empire, de rallier toutes les forces de l'Empire autour d'un seul et unique message. Et c'est la même idée qui, 100 ans plus tard, ou un peu plus, va provoquer la chute, l'exil d'Averroès. On est en pleine Reconquistada. Il faut unifier la société arabo-musulmane d'Andalousie et on refuse qu'il y ait une place pour le doute. On refuse qu'il y ait des dissensions, même créatrices, dans la société. Et même toute dissension est considérée comme néfaste. L'innovation...
Blâmable.
Mais qui décide qu'elle est blâmable ou pas? Et est-ce qu'on a déjà parlé des bonnes innovations? Il semble que toutes les innovations soient blâmables.
Et notamment chez un certain Ibn Taymiyyah, on est déjà 1326-1328, qui lui aussi est quasiment dans le même contexte, parce que là c'est plutôt la menace des Tatars, d'autres menaces. Donc vous pensez aussi que les menaces extérieures font qu'on se recroqueville, on se crispe, sur soi, et on est dans une mentalité obsidionale.
On est dans une mentalité de protection des acquis. On veut protéger les acquis. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de protéger les acquis que de les... de leur rendre une valeur permanente qui, à court terme, peut être utile, mais à long terme... mène au désastre.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de la dialectique entre la foi et la raison. J'ai dit que c'était un sujet classique, mais c'est un sujet crucial dans les contextes islamiques. Le professeur André Poupart, qui est juriste, professeur honoraire à la faculté de droit de l'Université de Montréal, nous en parle avec des propos édifiants. Surtout le passage de la philosophie au droit et comment, pour cette dernière partie, avec vous, monsieur le professeur, comment faire pour se dynamiser, ne plus rester dans cette approche nécrosée, sclérosée, asphyxiante. C'est revenir à l'importance de la philosophie et forcément aussi au droit positif.
Oui, je voudrais revenir sur cette idée de la philosophie qui peut être pratiquée en toute liberté, mais par un certain nombre de personnes bien avisées, dans des cercles restreints. Donc, on peut aborder les idées les plus innovatrices, penser à toutes les innovations, même blâmables, éventuellement. Mais toute cette réflexion reste à l'intérieur d'un cercle fermé. Comment transférer ces idées dans le domaine du droit? Là, la question devient difficile, parce que le droit s'applique à tout le monde. Le droit s'applique aussi bien à ceux qui comprennent qu'à ceux qui ne comprennent pas. Pour une grande partie de la population, des modifications du droit peuvent entrer en conflit avec la perception qu'ils ont du message divin unique, la parole divine. C'est incompatible, c'est impossible de changer le droit d'inspiration divine, même s'il a été élaboré par des humains, par des juristes, parce que finalement, cette pensée juridique a été enveloppée, inspirée par la présence divine. Et il s'est opéré une espèce d'osmose entre le droit et la parole divine qui fait que le droit lui-même est devenu sacré. Donc, on ne peut plus toucher au droit. Et si aujourd'hui, des gouvernants veulent modifier le droit, c'est extrêmement difficile parce que les musulmans eux-mêmes sont imprégnés maintenant de cette idée que le droit est sacré, que le droit représente la parole divine, que ceux qui l'ont élaboré, ce ne sont pas des avocats, des législateurs, c'est des représentants de Dieu qui transmettaient la parole divine. Donc, faire évoluer le droit devient difficile.
Oui. Et pourtant, l'un d'eux disait, à propos de ses prédécesseurs, « Ils furent des hommes et nous sommes des hommes ». Et en l'espèce, ce fameux droit sacralisé, intériorisé comme tel, ne concerne in fine que le statut personnel dont subissent les méfaits plutôt les femmes, et telle ou telle considération, et encore au niveau de l'altérité, le rapport à autrui. Mais pour le reste, comme nous l'avions dit au début de notre entretien, il y a des choses qui n'ont absolument pas été prévues ni conçues pour l'évolution de la société actuelle, y compris dans les sociétés majoritairement musulmanes.
Oui, mais cette conception du droit a créé un éthos de l'air ambiant, l'air à l'imitation, à une certaine sclérose avec le temps. Et donc, c'est pour ça que ça devient si difficile de changer la situation, de faire évoluer la situation. Ce qu'on voit au point de vue politique actuellement, le manifeste très bien, il y a une mentalité qui s'est développée, qui s'est créée, une mentalité d'imitation, une mentalité de respect.
De ce droit-là.
De ce droit-là, de la parole qui vient d'en haut. Et donc, toute idée qui permettrait de semer le doute est considéré comme une innovation blâmable.
Et toute innovation blâmable conduit à l'égarement et tout égaré périra par le feu de l'enfer. C'est la suite de la maxime. C'est la suite de la maxime attribuée au prophète et qui, dans les chaînes de transmission, serait plutôt apocryphe. Comment, monsieur le professeur, voyez-vous ou expliquez-vous cette idée que on a connu, nous avons connu en France une révolution qui s'est affranchie des dogmes religieux, et voilà que 190 ans plus tard, quasiment deux siècles, on connaîtra, ou l'humanité connaîtra, une révolution qui, elle, va s'arrimer à des dogmes religieux, et pour certains, c'est une des explications de la situation terrible que connaît ou que connaissent les musulmans.
Je pense que les idées sont devenues embrouillées avec le temps. La notion de laïcité aujourd'hui est très discutée. La laïcité ouverte, la laïcité fermée, donc
la fameuse affirmée. Laïcité adjectivée. Hein.
Voilà. Il n'y a plus de laïcité. Quand on parle de la République, c'est devenu compliqué. On dit c'est une idée républicaine. Qu'est-ce que c'est une idée républicaine aujourd'hui? Est-ce que le modèle universel républicain, j'ose pas dire est-ce qu'il est encore applicable, mais est-ce qu'il a tenu ses promesses?
Le cas canadien est un peu particulier avec le Commonwealth et la représentation de la souveraine britannique.
Ouais. Je dirais le cas québécois.
Ah, le cas québécois.
Mais celui que je connais mieux, dont je peux parler, est compliqué. Parce qu'il y a eu une évolution au Québec vers une certaine forme de laïcité. Au début, certains parlaient du modèle français. Ensuite, on s'est aperçu que même les Français ne savaient plus très bien à quoi correspondait leur modèle. Et, disons, depuis 1960, il y avait une marche vers une évolution vers la laïcité. Et là, il y a eu pas une arrivée massive, mais une présence musulmane, religieuse, de plus en plus forte. Il y a eu aussi une modification de la Constitution qui dit que la Constitution canadienne se conçoit avec la présence de Dieu. Donc, le Canada ou la Constitution n'est pas du tout dans le modèle de la laïcité. Donc, les Québécois qui évoluaient vers certaines laïcités, tout à coup sont confrontés à une nouvelle charte canadienne des droits qui affirme la présence de Dieu, d'une part sur le plan, disons, intellectuel, et sur le plan très concret, à l'arrivée de populations qu'on allait nous-mêmes chercher, parce qu'elles étaient francophones. Et quand ils arrivent au Québec, on s'aperçoit qu'ils sont, bien sûr, francophones pour un certain nombre, mais avant tout musulmans. Et un grand nombre affirme leur identité musulmane. Et donc, la société québécoise est torturée entre ces différents pôles et a des difficultés à adopter des lois qui soient à la fois respectueuses de l'identité québécoise et également des normes internationales de respect des religions, de respect de l'autre, et donc d'affirmer une volonté qui soit tout à fait contemporaine.
Dites-moi, André Poupart, comment voyez-vous l'avenir, vous qui êtes un observateur avisé de ces questions, et surtout le juriste que vous êtes? On dit souvent que c'est par le droit qu'on fait évoluer les sociétés, et par moments, on dit que ce sont les sociétés qui doivent être corsetées par le droit qui n'évolue pas. C'est une dialectique qu'il faut avoir à l'esprit ou c'est par le droit qu'il faut faire évoluer les sociétés?
Oui, mais le droit n'est pas indépendant des personnes qui l'élaborent. Et les parlementaires qui élaborent le droit sont soumis, eux, à leur électorat. Donc, l'évolution par le droit, ce n'est pas une abstraction. C'est une démarche très concrète. Et vous avez parlé d'accommodement raisonnable. Je pense que oui, il faut des accommodements. Il y a toujours eu des accommodements dans la société. Mais, en
ils
principe...
Ils ne sont peut-être pas raisonnables.
Mais, il y a peut-être des demandes. Il faut définir le raisonnable. Et ce qui est raisonnable pour le demandeur n'est peut-être pas raisonnable pour celui qui reçoit cette demande. Oui. Et donc, parfois, il y a des conflits qui sont, je pense, inévitables. Mais c'est par le dialogue qu'on va finir par trouver ce raisonnable.
Et donc avoir ce dialogue exigeant, loyal, serein, ayant comme souci l'émancipation du sujet humain de toutes les autres, de toutes les aliénations.
Voilà.
Merci infiniment, monsieur le professeur. Merci, André Poupart, de nous avoir instruits de tout cela. C'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres, chers amis auditeurs, sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son était assurée aujourd'hui par Pierre Monteil et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.